Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré au sacré et au politique. À l'ordre du jour ce soir, de Notre-Dame à Sainte-Sophie, le sacré est-il un objet politique comme les autres? La fin de semaine dernière a été marquée par l'annonce de la transformation du musée stambouliote de Saint-Sauveur in Cora en mosquée. Cette église byzantine du 5e siècle avait été transformée en 1958 en musée, suivant en cela l'exemple de Sainte-Sophie offerte à l'humanité, comme il l'avait dit lui-même, par Mustafa Kemal en 1932. Et mosquée qui, elle, était également redevenue mosquée en fin du mois de juillet. Cette double actualité turque nous dit qu'un lieu sacré peut le rester ou le redevenir au fil du temps selon les usages politiques dont il sera l'objet. Le désamorçage de la puissance religieuse d'un bâtiment n'est jamais total, comme on l'a vu d'ailleurs dans une France laïque faisant à nouveau de Notre-Dame de Paris un symbole de l'unité de la nation après son incendie de l'an dernier. Quand il s'agit de patrimoine, comment arbitrer entre le national et l'universel? C'est ce que nous allons voir avec nos trois invités, avec Hamid Bozarslan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en histoire et en sciences politiques, vous êtes directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, et vous êtes spécialiste évidemment de cette région du monde, en particulier de la Turquie. Avec nous Isabelle Anatole Gabriel, bonsoir.
Bonsoir Emmanuel.
Vous êtes donc maître de conférence chargé de cours à l'université de Poitiers et à l'école du Louvre, et vous êtes auteur de La fabrique du patrimoine de l'humanité aux éditions de la Sorbonne. Et enfin avec nous également Marie-Vonne de Saint-Pulgent, bonsoir. Vous êtes avec nous?
Oui, oui.
Vous êtes conseiller d'État, présidente de la Fondation des Treilles et ancienne directrice du patrimoine au ministère de la Culture.
Il ne s'agit pas de gagner un lieu de culte. Derrière nous, il y a la mosquée de Sultanahmet. On pourrait très bien y prier. Il s'agit de prendre en charge l'héritage de notre ancêtre, le sultan Mehmet le Conquérant. J'étais déjà venu à Sainte-Sophie quand elle était musée. C'était impossible d'y prier. Les gens marchaient avec leurs chaussures là où les fidèles auraient dû poser leurs tapis. Grâce à notre président, la Turquie s'est enfin libérée de cette malédiction.
Je n'ai pas dormi d'excitation, je suis tellement heureux. Aujourd'hui est un jour de fête pour tous les musulmans. Que Dieu bénisse notre nation et notre président. Évidemment, ce n'est pas pareil de prier dehors ou à l'intérieur, mais on a tout le temps pour ça. L'important, c'était d'être là aujourd'hui, de vivre l'excitation de ce jour historique. C'est une conquête, la preuve de la force des musulmans.
Un extrait du reportage d'Anand Leher auprès de deux fidèles. C'était le 24 juillet dernier, jour de la première prière dans Sainte-Sophie, reconvertie en mosquée. Hamid Bozarslan, un moment où on entend parler de national, de reconquête, de musulmans, d'islam et aussi de nation turque.
Oui, de la nation turque, parce que je pense que là, on n'est pas uniquement dans une problématique patrimoniale. Erdogan a évoqué à plusieurs reprises que la Sainte-Sophie revenait aux Turcs par le droit de la conquête et le droit de la paix. Et n'oublions pas qu'Istanbul, Constantinople a résisté. La conquête de Constantinople n'a pas été une affaire pacifique. Il y a eu quelques 4000 personnes qui ont été quand même assassinées. On a appliqué le loi de la guerre. Effectivement, comme vous savez, selon la charia, si une ville infidèle se rend aux musulmans, elle ne sera pas détruite. En revanche, si elle résiste, elle n'a aucune protection. Et donc, les lieux de culte peuvent être transformés en mosquées et les habitants peuvent être massacrés. Et donc, cette loi a été appliquée. Et donc, du coup, Erdogan, effectivement, utilise la notion de droit de la conquête et le droit de la paix. Et n'oublions pas que le président aux affaires religieuses qui a procédé aux cérémonies portait une épée dans sa main lors de la prière.
Mais tout de même, on peut dire que Mehmet le Conquérant n'a pas rasé cette ville de Constantinople alors qu'il aurait pu le faire. On pensait qu'il le ferait. Puis en fait, il a conservé une grande partie.
Il a conservé une grande partie. Et cela est extrêmement important pour la Turquie actuelle. Parce que le prophète Mahomet avait promis effectivement que les musulmans allaient un jour conquérir Constantinople, mais Constantinople était Rome, donc il fallait la détruire. Or, Mehmet le Conquérant l'a transformé effectivement en ville, en sa capitale, et on peut considérer 1453, et Erdogan l'évoque aussi très souvent, comme le moment de l'impérialisation de la nation turque, autrement dit la nation turque qui accomplit enfin sa mission universelle. Pour Erdogan, il est très clair, la nation turque a une double mission. historique, une mission historique qui consiste à dominer le monde pour lui apporter l'idée de l'harmonie, de la justice et de l'administration, et une deuxième mission historique qui consiste à servir de bras armés de l'islam. Et donc effectivement, Sainte-Sophie symbolise en quelque sorte cette double mission.
Alors on aurait pu s'en douter, puisque c'était déjà arrivé à Trabzon par exemple, c'était déjà arrivé à Iznik, et puis depuis Sainte-Sophie, depuis fin juillet, il y a eu le cas de Saint-Sauveur-in-Cora qui semble encore presque plus émouvoir l'opinion publique internationale, au sens que cette magnifique église de Saint-Sauveur-in-Cora est donc transformée en mosquée en 1958, est totalement recouverte de mosaïques, et que il sera peut-être plus difficile dans cet endroit-là de la transformer en lieu de culte, parce que il y a des représentations humaines partout.
Il y a des représentations humaines partout. Donc, est-ce que ces gravures, est-ce que ces représentations seront préservées? Parce qu'effectivement, la Sainte-Sophie, on a adopté un système d'escamotage des représentations pendant les prières. Est-ce que ce sera le cas? Je ne suis pas tellement certain. Et il est évident aussi que les touristes visitent beaucoup plus Sainte-Sophie que le Saint-Sauveur in Cora.
Alors, sur ce point, Isabelle Anatole Gabriel, vous avez fait un travail magnifique qui s'appelle donc, qui a été publié sous le titre de La fabrique du patrimoine de l'humanité, où vous revenez sur cette idée que, eh bien, il y a constitution d'un patrimoine de l'humanité par intermédiaire en particulier de l'UNESCO. Et la question que nous voulons poser dans cette émission, ce débat, c'est bien entendu de savoir ce qui ressortit de la nation et de l'autre côté de l'universel, puisque patrimoine de l'humanité, ça veut dire que ça appartient à tout le monde. Comment peut-on faire le départ entre ces deux fonctions et ces deux visions, pour interdire, de ce patrimoine, en particulier quand il est sacré?
Je crois que d'abord, il faut retourner à ce qui est la construction du patrimoine, la fabrique du patrimoine au plan national, puisque là, on est dans un cas où il y a deux plans qui, visiblement, ne coïncident pas ou ne coïncident plus. Le plan de fabrication nationale est toute l'histoire du XXe siècle, du XIXe siècle, du développement des institutions patrimoniales, de préservation du patrimoine dans les États-nations, eh bien, elle a permis justement d'affirmer une certaine identité culturelle, d'affirmer, de mettre en avant des lieux symboliques, de aussi se réattacher avec un passé plus ancien, comme par exemple tout ce qui a été fait pour les antiquités nationales en France. Et puis, bon, tout cela en Turquie, on a eu le même processus. Parfois, l'historiographie du patrimoine montre bien que le processus, enfin, l'intérêt porté au patrimoine, en tout cas aux objets d'art, sculptures, etc., n'a pas été immédiat en Turquie. Il est lent à se construire depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à l'époque kémaliste. Et là, il faut aussi le souligner, cette histoire du patrimoine dans la Turquie kémaliste, elle est aussi pour rejoindre une communauté savante extrêmement cosmopolite, quasiment universelle, si je peux dire, la communauté des conservateurs du patrimoine, des historiens de l'art, des études byzantines, etc. Donc il fait un geste fort en disant « c'est un musée, j'offre au monde ». Et puis, donc ce discours, ce récit national, ce récit de fabrication nationale, eh bien, il a été, je dirais, doublé ou complété à partir des années 60-70 d'un autre plan de fabrication qui est le plan de fabrication internationale et qui repose sur une série de valeurs qui sont très claires, c'est-à-dire c'est l'équivalence des cultures. Et on va chercher, en approfondissant les spécificités culturelles des différents pays, des différentes communautés, on va chercher leur part d'universel. Mmh. Et c'est dans cette démonstration, à travers ce montage qui est bien sûr un petit peu complexe, délicat, sensible, complexe, et bien c'est comme ça que l'on démontre l'équivalence des cultures et qu'on fait du patrimoine de l'humanité. Et l'identité nationale, les discours de fabrication nationale ont alimenté ce grand dispositif démonstratif du patrimoine de l'humanité.
Oui, alors ça, c'est une véritable question, c'est-à-dire comment être à la fois national et universel. Et c'est une question qui s'est réglée de manière un peu particulière en France aussi, puisque Marie-Vonne de Saint-Pulgen, vous avez été longtemps responsable du patrimoine au ministère de la Culture et vous intéressez depuis très longtemps au sort de Notre-Dame. C'est une de vos spécialités. Vous avez travaillé d'ailleurs sur cette idée que, eh bien, l'État avait d'une certaine façon sauvé une partie du patrimoine sacré de la France, eh bien, avec la loi de 1905, loi de laïcité, qui sépare donc la gestion de ces églises de leur fonction sacrée. C'est une façon un peu particulière de régler le problème, mais ça a été réglé comme cela en France, Marie-Vonne de Saint-Pulgen.
Oui, bon, c'est la loi de 1905, il faut la voir aussi à la lumière des protections monuments historiques mises en place au 19e siècle.
Bien sûr, la création des monuments historiques.
Voilà, la loi de 1887 est très vite après la loi de 1905, la loi de 1913. Et il y a dans la loi de 1905 une tentative de conciliation entre l'idée que la séparation de l'Église et de l'État, c'est une façon pour l'État quand même d'assurer la liberté du culte. La laïcité, c'est pas contre les cultes, c'est la liberté du culte. Alors c'est la version française, mais en même temps, les législateurs de 1905 réaffirment que les églises, puisque la loi de 1905 c'est les églises, la cathédrale c'est 1789, les églises sont aussi le patrimoine de tous les citoyens, le patrimoine de la nation. Et avec cette idée que bien qu'il y ait une affectation exclusive au culte de l'ensemble des églises, qui par ailleurs sont des propriétés publiques, puisque c'est les communes qui en sont les propriétaires, c'est aussi le patrimoine de tous, et donc il ne faut pas les réserver aux fidèles. Donc il y a tout un dispositif consistant à affirmer la double nature du patrimoine religieux français. Mais c'est aussi parce que dans la construction de l'idée patrimoniale en France, le patrimoine religieux a été totalement essentiel. C'est tout le travail du début du XIXe siècle, avec le génie du christianisme de Chateaubriand, à Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, mais en fait, c'est plutôt cette idée que la réconciliation voulue par Guizot et Louis-Philippe par-delà la Révolution permet de se faire autour des gloires anciennes de la France. Les gloires anciennes de la France, il y a le style gothique, le style franc, le style français, et donc le patrimoine religieux. Donc je pense que cette idée que le législateur de 1905 rappelle quand même que bien que l'affectation des églises soit totale, l'affectation culturelle des églises soit totale et que l'État est là aussi pour protéger cela, c'est-à-dire affirmer cela, ça n'exclut pas une utilisation laïque, ouverte à tous, de ce patrimoine qui appartient à la nation.
Je vous propose d'écouter.
C'est une chose qui est très oubliée, souvent, aujourd'hui, cette affirmation. Et puis, par ailleurs, le sauvetage des églises par la loi de 1905, c'est tout simplement pratique. C'est parce que le transfert de la propriété des églises des fabriques.
Des
fabriques religieuses aux communes, de la même façon d'ailleurs que la nationalisation des cathédrales réalisée en 1789, a transféré la charge immobilière à la puissance publique et a sauvé ces églises d'une ruine presque inévitable due à l'appauvrissement de l'Église et l'affaiblissement du nombre de
fidèles. Je vous propose d'écouter ce que disait le 16 avril 2019 après l'incendie de Notre-Dame de Paris Emmanuel Macron dans son adresse aux Français.
Tout ce qui fait la France, matériel et spirituel et vivant, et pour cette raison même est fragile, et nous ne devons pas l'oublier. Et c'est à nous, les Françaises et les Français d'aujourd'hui, qu'il revient d'assurer au long du temps cette grande continuité qui fait la nation française. Et c'est pour cela que ce soir, je voulais, de manière directe, m'adresser à vous, parce que c'est notre devoir aujourd'hui, et c'est celui qu'il nous faut avoir en tête, rien de moins.
Assurer la continuité de la nation française par l'intermédiaire d'une église, d'une cathédrale en l'occurrence, Marie-Yvonne de Saint-Pulgent, est-ce qu'on peut dire, alors certains seraient peut-être choqués justement par ce parallélisme que nous faisons avec Notre-Dame d'un côté et Sainte-Sophie de l'autre, qu'il y a tout de même ce lien du sacré d'un côté et du politique dans l'idée qu'effectivement un monument comme celui-ci, sacré, peut être aussi un monument de la nation.
Oui. Alors ça n'a pas été, ça s'est pas fait tout seul, parce que lorsqu'il y a la grande rupture de la Révolution française, il y a quand même la destruction d'une partie tout à fait symbolique de la cathédrale Notre-Dame, qui est la galerie des rois, avec d'ailleurs une erreur sur quel type de roi on représente. Donc la première réflexe est plutôt la destruction, comme d'ailleurs pendant les guerres de religion. Le fait que le patrimoine religieux soit une cible politique en cas de conflit, qu'il soit national ou religieux, ça c'est pas nouveau. Mais en tout cas, le premier réflexe c'est ça, puis bon, il y a le célèbre discours de l'abbé Grégoire revendiquant pour l'ensemble des citoyens la même chose, les monuments de l'ancienne France, et donc Notre-Dame va être réappropriée par la Révolution, et c'est en particulier lorsque Robespierre organise le culte de la cérémonie du culte de l'être suprême à la cathédrale Notre-Dame de Paris, donc la réaffirmation aussi, le réinvestissement religieux, alors la religion civil voulu par Robespierre, mm-hmm. considérait qu'on pouvait pas, un peuple ne pouvait pas se passer de religion, donc il était prêt à la créer pour le peuple issu de la Révolution, mm-hmm. mais quand même l'immédiat réinvestissement mm-hmm. de Notre-Dame par la nation issue de la Révolution française. C'est ouais. un acte ouais. extrêmement important. Et ensuite, vous retrouvez la même chose avec Napoléon Ier qui célèbre le sacre à cet endroit-là aussi. Et ça a continué
jusqu'à De Gaulle à la libération de Paris. Voilà. Amit Besarsan, est-ce que c'est choquant de faire le parallélisme entre une volonté politique, celle de Erdogan, donc de réinvestir de façon sacrée et de façon religieuse un lieu qui était devenu patrimoine commun de l'humanité, et de faire le parallélisme avec Notre-Dame et les usages politiques, pourrait-on dire, d'un lieu sacré comme Notre-Dame?
En tout cas, il y a une différence quand même très importante. Il y a une différence parce que Macron a souligné la continuité de l'histoire française. Autrement dit, l'histoire, par-delà les conflits dont il a été le théâtre, se comprend dans son intégrité. Alors que quand on regarde ce qui se passe en Turquie, la rétransformation de Sainte-Sophie en mosquée, ça s'inscrit dans un double cadre de guerre, une guerre interne qui est très claire, hein, parce qu'Erdogan le rappelle, les élites turques ont trahi leur mission historique, mm-hmm. leur culture, leur civilisation. Et pour Erdogan, il est extrêmement vital, urgent, de restituer la nation turque dans sa pureté ontologique avant 2053, donc le 600e anniversaire de la conquête de Constantinople, et avant 2071, ça veut dire la première victoire turque contre les Byzantins. Et puis il y a une deuxième guerre, l'espace vital. N'oublions pas que tout ceci a lieu aussi dans un contexte où le conflit chypriote est là, dans un contexte où il y a une tension grandissante, cette fois-ci dans la mer Égée. Et Erdogan rappelle, l'Anatolie nous appartient, l'acte de propriété de l'Anatolie est la nôtre, nous l'avons gagné par la guerre et cette guerre n'est pas terminée. Erdogan le rappelle très souvent, la Première Guerre mondiale n'est pas terminée, mmh. les batailles décisives de la guerre sont encore à venir et l'avenir est le moment de revanche sur le passé.
Mmh. Ça, c'est une question qui intéresse, j'imagine, vous qui avez travaillé sur la façon dont s'est fabriqué le patrimoine mondial, Isabelle Anatole-Gabriel, qui intéresse généralement la question de l'UNESCO, parce que simplement, quand on classe un bâtiment au patrimoine mondial, souvent à la demande d'ailleurs des autorités du pays et des autorités nationales, eh bien d'un seul coup, est-ce que l'autorité nationale est encore propriétaire de cela ou est-ce qu'elle passe le témoin d'une certaine façon à la communauté des amateurs et du monde entier? Quelle est la question autour de ce rapport justement entre un bâtiment aussi important que Sainte-Sophie, un autre comme Saint-Sauveur-in-Cora, Notre-Dame peut-être, et cette notion de patrimoine mondial?
Alors, je crois que cette question des objets, elle est très juste, parce que je crois qu'il faut rappeler, quand on parle de fabrication de patrimoine, on parle pas d'objets, on parle aussi d'un grand projet. Et pour prolonger ce que disait Madame Marie-Vanne de Saint-Pulgent, la Révolution française, elle institue aussi un projet patrimonial qui est de faire de l'art, de sa connaissance, un projet d'éducation pour le futur. Donc, il y a une vraie rupture de temporalité, ce sont pas simplement les objets du passé, ce qu'ils traduisent d'histoire, mais c'est aussi un projet
construire devant,
projeter dans le futur. Et ça, c'est vraiment la grande rupture significative, la grande valeur sur laquelle repose le projet patrimonial, non seulement français qui s'est développé en Europe tout au long du 19e, mais aussi le projet de la Communauté des Nations, du projet de l'UNESCO, c'est-à-dire on est dans un projet collectif, on est dans un projet d'éducation pour le futur.
Et qui sort d'une certaine façon du nationalisme, qui sort de la construction, justement de l'usage nationaliste, pourrait-on dire, du patrimoine, par exemple.
Tout à fait.
Qui voudrait le faire, en tous les cas.
Absolument. Il y a des valeurs inhérentes à ce grand projet, qui sont des valeurs de partage, qui sont rarement des valeurs de sacré, puisqu'il n'y a pas, le mot sacré n'existe pas dans la Convention de patrimoine mondial. C'est une approche qui est typologique, qui est faite justement pour inventorier, pour voir large, pour inclure toutes les cultures. Donc on est sorti complètement de ce plan de fabrication nationale. On est dans un autre projet qui doit parler à l'humanité.
19h40, vous écoutez Le Temps du Débat et nous nous demandons justement si après justement ce qui se passe en Turquie, en particulier à Istanbul, de Notre-Dame à Sainte-Sophie, le sacré est-il un objet politique comme les autres ?
France Culture. débat. Emmanuel Laurentin.
Marie-Bonne de Saint-Pulgent, dans cette discussion que nous avons autour du sacré comme objet politique, est-ce qu'il n'y aurait pas, dans la vision que l'on se fait de ce qui est en train de se passer à la fois du côté d'Istanbul et de chez Monsieur Erdogan, mais aussi dans d'autres endroits de la planète, cette idée qu'on aurait chassé le sacré et que d'une certaine façon, on pouvait s'en passer. C'est-à-dire que ce sacré, eh bien, on allait vers une laïcisation progressive de nos mœurs, qu'on allait progressivement voir disparaître ce sacré. Ça a été d'ailleurs une des grandes tendances d'une certaine sociologie religieuse qui le pensait elle-même dans les années 70 et en particulier les années 80-90. Et qu'au bout du compte, eh bien, on est surpris de le voir revenir par un acte politique voulu par un dirigeant politique comme Monsieur Erdogan.
Bon, c'est sûr, mais c'est pas réservé à la Turquie aussi. On a une transformation assez préoccupante, d'ailleurs, de l'idée qu'on se fait en France de la laïcité depuis peu de temps, en fait. Depuis, disons, une trentaine d'années, la version apaisée de la laïcité qui était sortie après les grands débats du des premières années, disons, du XXe siècle, on avait l'impression qu'on avait surmonté la guerre d'origine, hein. 1905, c'est quand même une loi qui se veut de liberté, mais qui est perçue comme tout à fait différemment par la communauté catholique, hein, comme une loi de guerre. Bon, mais on avait vu s'installer une conception apaisée de la laïcité, un partage de une conception commune, au fond, de cette double nature voulue, encore une fois, par le législateur de 1905, à la fois patrimoniale et sacrée du patrimoine religieux. Et puis, on voit très très bien que cette conception de la laïcité, elle se défait sous nos yeux. Même le consensus assez massif autour de la restauration de Notre-Dame de Paris a quand même été troublé par un discours, supralaïque, consistant à dire, l'État n'a pas à s'occuper de la restauration de Notre-Dame de Paris, on est un État laïque, donc il ne faut pas s'en occuper. Alors bien sûr, cette version est complètement erronée. D'ailleurs, la Ligue des droits de l'homme a appelé à l'ordre là-dessus, elle s'est chargée de du rappel à l'ordre sur ce que veut dire vraiment la loi de 1905, mais on est quand même frappé de voir que le consensus se brise et qu'on a des extrémistes des deux côtés. C'est une remontée des conflits autour de la religion et des conflits entre le laïc et le religieux. Alors, moi, je dirais pas sacré, je dirais plutôt religieux. Et sur ce que veut dire la liberté religieuse. Alors, nous parlons pas en France de liberté religieuse. Nous sommes d'ailleurs très isolés dans le monde occidental, le monde juridique occidental. Moi, les échanges que nous avons avec nos collègues magistrats administratifs professeurs de droit, on est toujours frappé de voir qu'ils ne comprennent pas ce que nous entendons par laïcité. Eux, leur sujet, c'est la liberté du culte.
Alors que...
Je pense que le trouble autour de ce sujet, ainsi d'ailleurs que la redécouverte que la question religieuse est toujours une question très politique, qu'on soit dans un État laïque ou qu'on soit dans un État démocratique.
Hamid Bozarsan, sur ce point justement, sur cette idée que peut-être on allait progressivement vers une disparition de la question religieuse, la question du sacré allait peut-être se diluer dans une modernité s'en passerait de ce sacré, et puis d'un seul coup on voit des résurgences partout, évidemment, pas simplement le terrorisme ou des choses comme ça, qui nous disent que ça n'est pas le cas. Et c'est aussi la surprise vis-à-vis de ce coup de force, pourrait-on dire, de Erdogan par rapport à Sainte-Sophie, par rapport à Saint-Sauveur-en-Cora, et puis par rapport à beaucoup d'autres lieux qui avaient été transformés en musée par Atatürk.
Je pense que peut-être on se trouve en face d'une polysémie concernant le terme de sacré. Parce que pour un énormément de touristes, par exemple, Notre-Dame n'était absolument pas sacré, et pourtant c'était universel. Donc pour les chrétiens, effectivement, Notre-Dame c'était un monument chrétien, mais pour les millions de personnes à travers
le monde... C'est une merveille de l'architecture.
Voilà, une merveille de l'architecture. Ça renvoie quand même à une histoire universelle. L'histoire française devenant une histoire universelle. Et je crois que cela a été aussi le cas de Sainte-Sophie. Quand on regarde la Turquie, à vrai dire, le sacré n'a pratiquement jamais été évoqué par rapport à Sainte-Sophie. On n'a pas parlé de le sacré, on a parlé de la religion, on a parlé de la nation, on a parlé du droit de l'épée, on a parlé du nationalisme, on a parlé de l'espace vital, de l'Anatolie, etc. Mais le terme du sacré en tant que tel n'a jamais été utilisé.
Sur ce point, Isabelle Anatole Gabriel, sur ces transformations et cette idée justement que vous développiez tout à l'heure, que en faisant le patrimoine mondial de l'humanité, eh bien, on voulait justement écarter cette notion de sacré, on ne voulait pas la voir, et que parfois, peut-être, elle pouvait revenir sans même qu'on l'ait attendue.
C'est-à-dire que le projet du patrimoine mondial de, enfin, le patrimoine de l'humanité, il a une approche qui est fondamentalement typologique, c'est-à-dire c'est des catégories, l'architecture, la sculpture, etc. Et puis au fur et à mesure où on a développé la liste, bien évidemment, les notions ont changé, c'est devenu plutôt des paysages. Mais ce n'est jamais à travers cette notion de sacré, parce que bien évidemment, elle essentialise. On va tout de suite dans l'essentiel. D'une culture, eh bien, c'est jamais à travers cette porte-là qu'on aborde les sites du patrimoine mondial. Et pour, par exemple, Notre-Dame, on ne parle pas de Notre-Dame, c'est Paris, rive de la Seine. Donc, et Notre-Dame, comme vous le soulignez, est inscrite au titre de chef-d'œuvre de l'architecture gothique, etc. Donc, on est désengagé de cette notion de sacré. Elle est revenue un petit peu, elle est revenue au cours des années 80-90, au moment où, à la suite de la montée sur la scène politique internationale des populations autochtones, on s'est intéressé à la notion de paysage culturel sacré. Et donc là, effectivement, mais ça a été inclus comme une, là encore, cette fenêtre étroite, très technique de la typologie, mais pas du sens spirituel, religieux.
Alors, je vous propose d'écouter Ilyas Topsakal, qui est vice-recteur de l'Université d'Istanbul, proche du MHP, le parti d'extrême droite nationaliste qui fait partie de la coalition au pouvoir.
Pour les Turcs, l'identité islamique de Sainte-Sophie n'est pas d'une importance centrale. C'est une erreur que les intellectuels occidentaux font quand ils décryptent la situation. Pour les orthodoxes, Sainte-Sophie est une église, mais pour nous, c'est une question de souveraineté nationale et d'affirmation de la prépondérance de l'État. Cette ouverture au culte musulman ne date pas d'hier. Depuis longtemps déjà, il y a des imams qui sont nommés à Sainte-Sophie. L'appel à la prière y était effectué. On pouvait prier dans certaines parties du bâtiment et les fidèles venaient y faire leurs 5 prières quotidiennes. C'était donc déjà une mosquée, mais jusqu'à aujourd'hui, elle n'avait pas été inaugurée en tant que telle aux yeux du monde entier. C'est une question de droit interne qui relève de la souveraineté nationale et personne n'a le droit de s'en mêler.
Amine Bozarslan, voici un extrait du grand reportage Erdogan, islamise-t-il la Turquie, qui est signé Benjamin Ely. Je vous engage à l'écouter demain sur France Culture. C'est une réalisation de François-Charles Domergue et ça sera sur France Culture à 17h, présenté par Aurélie Ekiefer. On y entend ce genre de paroles. Vous comprenez ce qui est dit justement par Ilyas Topsakal?
Je comprends
ça pas. Ça n'est pas l'islam qui est en question, voilà. Dit-il, c'est le national.
Voilà, c'est le national. Et je pense que là, on voit déjà très clairement la contradiction qui puisse exister par rapport à, disons, une interprétation relativement orthodoxe de la religion qui ne reconnaît pas le national et qui se veut précisément universel. Voilà, effectivement, on évoque le droit de la souveraineté de l'État, le droit du prince qui est souverain, le droit de la nation turque qui est souveraine. Et ce discours est rappelé constamment, aussi bien en interne que sur le plan diplomatique. Et je crois qu'effectivement, par rapport à l'UNESCO, on a rappelé aussi qu'effectivement, certes, la Sainte-Sophie faisait partie du patrimoine universel, mais le droit d'en disposer relevait du droit de souveraineté de la nation turque. Et je crois que là aussi, on voit que le sacré, à vrai dire, intervient très très peu. Cela étant dit, en faisant cela, Erdogan a ouvert aussi la porte des enfers. Qu'est-ce qui empêcherait demain Israël de détruire Al-Aqsa, la mosquée d'Al-Aqsa, pour construire le troisième temple à la place? Parce qu'effectivement, on peut dire que même si l'annexion de Jérusalem n'est pas reconnue par la communauté internationale, on est en face du droit de souveraineté, parce que qui maîtrise le territoire est la force souveraine sur ce territoire.
C'est vrai que c'est une extension de cette proposition d'Erdogan qu'on n'attendait pas forcément.
Alors qu'Erdogan a rappelé qu'en retransformant la Sainte-Sophie en mosquée, il annonçait aussi la libération d'Al-Aqsa.
Oui. Marie-Bonne de Saint-Pulgent, sur ces questions que vous avez commencé à aborder tout à l'heure, c'est-à-dire sur cette façon que, on a d'avoir une sorte d'hyper-laïcité en France. On se dit, on pensait avoir d'ailleurs une sorte de pendant avec la Turquie d'avant Erdogan, en se disant, il y a deux pays véritablement laïcs, c'était cette Turquie de Mustafa Kemal Atatürk et de la France. Et puis on s'aperçoit que tout cela peut changer, que c'est glissant. Cela évolue et que ça ne peut pas toujours durer tel que ça a été pensé.
Oui, c'est évident que, en plus, il y a des poussées. Comme vous le savez, le sujet de laïcité en France est troublé par le fait que il a été organisé autour quand même de la domination de l'Église catholique.
Bien sûr.
Or, en transférant, comme je l'ai souligné, à la propriété publique, la propriété des églises, on a chargé l'État de la responsabilité de l'entretenir, chargé l'État et les pouvoirs publics, les communes, de l'entretenir. Et c'est vécu par les autres religions comme une inégalité, un soutien. C'est réinterprété aujourd'hui comme un soutien à la religion catholique aux dépens des autres religions. Et en particulier de celles qui n'étaient pas établies en France en 1905.
Bien sûr.
Donc, en particulier, évidemment, la question des mosquées, justement. Et donc, c'est pour ça que la laïcité est troublée. Et c'est pour ça que vous avez maintenant des réinterprétations de la 1905 consistant à dire, c'est vrai, mais même au point de vue de l'égalité des cultes, ce système est inégalitaire parce qu'on soutient une religion sous prétexte qu'elle est la plus ancienne et la plus anciennement établie, majoritaire en théorie. Pratique, faudrait voir. c'est pas juste. C'est la même chose sur les fêtes religieuses et tout. Mais pour vous donner un exemple du trouble de laïcité, on a vu apparaître dans le débat public la question des crèches, par exemple. Rappelez-vous que c'est un sujet dont personne ne parlait jusqu'à un moment où, tout d'un coup, on s'est demandé si on avait bien le droit, au vu de la loi de 1905, de
mettre des crèches dans les mairies,
dans les hôtels de ville.
Oui. Hein.
Donc, dans les lieux publics, ça c'est un sujet totalement nouveau, qui a d'ailleurs beaucoup embarrassé les juges, avec une solution consistant à dire, ça dépend, en Vendée, oui, parce que c'est une tradition, mais à Paris, non. Bon, on voit très bien que ça redevient un sujet politique et un sujet de dissension.
Mais en vous écoutant et en vous lisant, Marie-Bonne de Saint-Pulgent, ça n'a jamais été autre chose qu'un sujet politique, c'est ce qu'on croit comprendre. C'est-à-dire qu'on a oublié que c'était un sujet politique, en fait, au bout du compte.
Oui, mais c'est un sujet politique par nature, et puis c'est un sujet, évidemment, qui touche à l'identité. Aux identités, si vous voulez, au pluriel, mais incontestablement aux identités. Et d'ailleurs, moi, quand j'étais directeur du patrimoine, j'avais organisé des journées sur la politisation du patrimoine, l'utilisation du patrimoine au bénéfice de causes qui ne sont pas des causes patrimoniales. Et c'était assez proche de la guerre des Balkans. Et rappelez-vous que dans la guerre des Balkans, qui opposait trois religions, chaque belligérant attaquait le patrimoine religieux des autres en priorité, et c'était en Europe. C'est-à-dire, c'est pas uniquement les pays islamistes, c'était bon. Et donc, et c'était la cible prioritaire. Il y a eu des destructions terribles au XXe siècle de ce patrimoine religieux qui est la première cible. Alors, destruction physique, ça c'est la pire des situations, si je puis dire, du point de vue patrimonial, ou destruction théorique, parce que l'une des questions posées à juste titre sur la réaffectation au culte exclusive, quand même, au culte musulman, parce que c'est vrai, peut-être on célébrait le culte musulman à Sainte-Sophie, mais pas seulement. Voilà. Ce qui est revendiqué, c'est de ne célébrer plus que ce culte-là, considérant que les autres utilisations du lieu sont incompatibles, ce qui est totalement contraire à la vision de la loi de 1905, justement, du patrimoine religieux. Mais où on affirme la compatibilité entre l'usage patrimonial par tout le monde et l'usage par les fidèles. Mais ce que je veux dire, c'est que les conséquences patrimoniales peuvent exister. Et c'est la question, évidemment, du décor.
Bien sûr.
Est-ce que ce décor restera le même avec l'utilisation c'est une des questions, effectivement. À la célébration du culte.
Isabelle Anatole Gabriel, sur cette question, cette volonté que vous avez soulignée tout à l'heure de l'UNESCO, d'une sorte d'harmonie universelle qui se passerait justement de la question du sacré, est-ce que on peut imaginer que l'UNESCO, vous qui avez travaillé sur cette fabrique mondiale du patrimoine de l'humanité, eh bien l'UNESCO revienne sur ces questions-là en disant, vous disiez tout à l'heure, les paysages peuvent être considérés comme sacrés. Eh bien, peut-être il va falloir réintégrer cette notion qu'on avait chassée volontairement parce que elle revient dans le débat public et dans le débat politique. Ça pourrait arriver ou pas ?
À travers la Convention du patrimoine mondial, on aborde la notion de sacré à partir du moment où l'État parti qui fait inscrire un bien la met en avant. Mais à ma connaissance, ce n'est pas le cas pour les zones historiques d'Istanbul et ce n'est pas le cas non plus. Enfin, je ne connais pas le dossier sur le bout des doigts de Paris et Rive de la Seine. Donc c'est cela que l'UNESCO étudie, c'est cela que la Convention du patrimoine met en avant, c'est-à-dire des qualités qui ne sont pas forcément celle d'un culte, voilà. Donc, mais je voulais revenir sur un point à propos de cette notion de reconquête dans le contexte turc. Je crois qu'il faut l'historiographie du patrimoine est toujours extrêmement éclairante. Il faut comprendre qu'on a là une ville qui est qui a un immense patrimoine ottoman, et puis on a une ville précédente, enfin qui est byzantine. Et toute l'historiographie du patrimoine n'a fait qu'accentuer cette coupure civilisationnelle, culturelle, monumentale entre ces deux ensembles byzantins et ottomans. Et quand on utilise le pouvoir symbolique de ces lieux patrimonialisés, eh bien, il y a une manière de relier, de tout le temps de réaffirmer son pouvoir, c'est en rejoignant systématiquement la conquête. Donc ça, c'est une manière de réinvestir des lieux pour effacer l'histoire.
Donc, et effacer la coupure. Et donc,
effacer cette coupure.
Et dire effectivement qu'on a le pouvoir sur le présent, on a peut-être le pouvoir sur l'avenir, mais peut-être aussi le pouvoir sur le passé. Donc on remet ce pouvoir dans les mains de celui qui décide justement à Sainte-Sophie ou ailleurs que cela sera à nouveau une mosquée. Vous pensez que ça peut continuer, Hamid Bozarslan, dans d'autres bâtiments, dans le reste de la Turquie aujourd'hui, que c'est un début ?
Peut-être sur d'autres registres. Je pense que ça continuera sur d'autres registres parce qu'on a, par exemple, le cas de Chypre du Nord. Finalement, les deux musées les plus importants de Chypre du Nord sont des anciennes églises. Et donc, on peut parfaitement imaginer que demain, s'il n'y a pas trop de résistance de la part des Chypriotes turcs, que là aussi, on procédera à une retransformation ou à une transformation en mosquée, tout simplement parce qu'effectivement, on est en plein conflit entre ce que la Turquie considère comme deux entités totalement antagoniste, d'un côté la grécité, excusez la barbarité du terme, de l'autre côté la turcité.
La romiocinie, comme on dit en Grèce, et effectivement dans l'héritage romain et byzantin, et puis de l'autre côté, effectivement, la turcité.
Et peut-être encore un autre point, je crois qu'effectivement, vous avez tout à fait, très brièvement, vous avez tout à fait raison de souligner qu'il y a eu une rupture, et en même temps, Constantinople, Istanbul est resté une ville impériale jusqu'au génocide. N'oublions pas qu'effectivement, y compris au 19e siècle, très probablement, une bonne partie de la population, si ce n'est la majorité, était non musulmane.
Oui, c'était à peu près la moitié de 1914. Merci beaucoup, Hamid Bozarslan. Merci à vous, Isabelle Anatole Gabriel. La fabrique du patrimoine de l'humanité s'est publiée depuis maintenant 3 ans, je crois, puisque c'était en 2000, je n'ai plus la date 16. De 2016, voilà, c'est ça. Et puis, de votre côté, Marie-Vonne de Saint-Pulgent peut vous lire en particulier dans la Revue des Deux Mondes qui est consacrée au patrimoine religieux. Merci à tous les trois. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Baille, Fanny Richer, Hugo Boursier et Imane Gilles. À la technique aujourd'hui, Pascal Baudin. À la réalisation, Alexandre Manzanares. Demain, comment vivre dans un monde d'incertitude? Nous commençons une conversation mondiale, ou plutôt nous la poursuivons. Nous avons commencé avant et pendant le confinement à demander des textes à des intellectuels, des écrivains, des artistes du monde entier sur le coronavirus. Eh bien, nous en faisons une émission tous les vendredis désormais. Et ça sera demain avec la philosophe Hilaria Gaspari et avec le philosophe Jean-Luc Nancy.